Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au cœur de l'April, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. J'aurai le plaisir d'avoir avec moi plusieurs personnes actives au sein de l'April pour parler des activités de l'April, de son fonctionnement. Posez-nous toutes vos questions pendant le direct, nous y répondrons. Avec également au programme Stop Covid et également une présentation du label Territoire numérique libre ouvert à toutes les collectivités. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France, en DAB+, 24h sur 24 et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous y trouvez déjà une page consacrée à cette émission avec les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Nous sommes mardi 16 juin 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Donc si vous voulez réagir avec nous, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission, dièse, libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors tout de suite, place au premier sujet. Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet Dune. Alors déjà, on a le plaisir d'avoir le retour de Noémie après quelques semaines d'absence. Donc déjà, bonjour Noémie.
Fred, bonjour, est-ce que tu m'entends ?
Là c'est parfait, bonjour Noémie.
Parfait.
Alors Noémie, tu souhaites nous parler aujourd'hui de l'application Stop Covid sous l'angle du traitement des données personnelles des personnes utilisatrices. Je te laisse la parole.
Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. La chronique de ce jour est consacrée à Stop Covid, l'application pour smartphone développée dans le cadre du déconfinement. C'est une première, cette application a fait couler beaucoup d'encre avant même sa mise en œuvre. Beaucoup s'interrogent sur l'utilité de cette application, ou plus grave, les atteintes aux libertés publiques qu'elle pourrait engendrer. Y a-t-il suffisamment de garde-fous autour de cette application ? Après avoir identifié les caractéristiques de Stop Covid et les conditions de son développement, nous reviendrons sur quelques avis émis par des experts et nous aborderons comment le public a réceptionné cette application. Les caractéristiques de l'application Stop Covid, c'est une application mobile de suivi de contact qui repose sur le volontariat des personnes et utilise la technologie Bluetooth. Elle vise à dépister et isoler les personnes infectées par le coronavirus et alerter les personnes en contact avec ces dernières. Cette application est placée sous la responsabilité du ministère des Solidarités et de la Santé. Elle est disponible depuis le 2 juin 2020 en téléchargement depuis les plateformes du GAFA. On l'installe de manière non obligatoire, elle est gratuite, son téléchargement est gratuit. Elle implique pour son utilisateur l'acceptation de la politique de données. En pratique, le smartphone va stocker une liste de pseudonymes temporaires des appareils qu'il a croisés pendant 14 jours. C'est ce qu'on appelle l'historique de proximité. Ensuite, l'application va alerter l'utilisateur ayant été récemment en contact prolongé à moins d'un mètre de distance et durant au moins 15 minutes avec une personne ayant volontairement déclaré avoir été testée positive au coronavirus. Donc l'utilisateur peut volontairement déclarer qu'il est positif dans l'application en saisissant pour cela un code transmis par son médecin ou un laboratoire. Cela va générer une alerte envoyée à l'ensemble des utilisateurs ayant été en contact rapproché avec lui les jours précédents et dans la limite des 14 jours. Vraisemblablement, à la suite d'une alerte, l'utilisateur en contact va très certainement se faire dépister et, s'il le souhaite, il se confinera dans l'attente du résultat et de la suite du protocole. Il y est d'ailleurs grandement invité par l'application. Donc cette application, elle est présentée comme étant transparente et protectrice de la vie privée. Son objectif annoncé, c'est de casser la chaîne de transmission du coronavirus. L'application en elle-même, eh bien évidemment, elle traite des données de santé. Pour rappel, les données de santé, ce sont toutes les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d'une personne physique et qui révèlent des informations sur son état de santé. En revanche, il n'y a pas de données de localisation des personnes qui sont utilisées via l'application, puisque c'est la technique du Bluetooth. Il faut savoir que s'agissant des données collectées, elles sont rendues anonymes, car l'application va générer des pseudonymes au moyen d'identifiants. Donc tout ça fait que cette application elle est soumise au règlement général sur la protection des données, le RGPD. Il faut également noter que l'application est temporaire et qu'elle n'a pas vocation à être proposée au public après la fin de l'épidémie. La durée de vie de cette application, elle est en principe de 6 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. S'agissant des conditions de développement de l'application, eh bien, le développement a été confié à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique, qui est également en charge de la recherche en sciences et technologies du numérique. Dans le cadre de ce projet d'application Stop Covid, l'INRIA et un institut allemand ont publié le protocole Robert. Ce protocole, eh bien, il peut être utilisé pour la construction d'applications mobiles de suivi de contact avec deux objectifs. Le premier, le respect de la réglementation sur les données. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir être résistant à des attaques crédibles. S'agissant de ce protocole, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, s'est prononcée dans son avis du 25 mai 2020, on y reviendra. Pour la CNIL, ce protocole est conçu dans une logique de minimisation et de protection des données. Donc, il est considéré comme satisfaisant. S'agissant du code source de l'application, il est publié, alors non pas en intégralité, mais en partie. C'est d'ailleurs ce qui fait débat, hein, puisque la politique de publication du code source développée dans le cadre de ce projet, eh bien, est présentée comme reposant sur 3 catégories. Une partie restreinte non publiée, qui serait des tests ou des parties critiques pour la sécurité de l'infrastructure. Une partie rendue publique sans appel à contribution qui correspondrait à des parties qui implémentent directement des spécifications très précises et une partie relevant de l'open source, entre parenthèses, avec des appels à contribution sur le cœur de l'application, notamment eh bien, l'implémentation du protocole Robert. Ces critiques, eh bien, elles sont continuent. Jusqu'à présent, c'est vrai que ces critiques, elles ont notamment eu comme point principal eh bien, de dire que les parties de ce code qui n'étaient pas soumises à des licences propriétaires donc, étaient critiquables. Il n'y avait pas de publication sous licence libre de l'application. Et la CNIL avait en fait, elle, demandé, et nous verrons un peu plus tard, que le code source soit librement accessible, ce qui n'a pas été suivi. Il y a d'autres analyses qui ont été faites à propos de cette application. Plusieurs experts se sont prononcés, des experts dans le milieu médical. On a le Conseil national de l'Ordre des médecins, le Conseil scientifique, l'Académie nationale de médecine, mais également dans le domaine du numérique avec le Comité national pilote d'éthique du numérique, la Commission supérieure du numérique et des postes. De mon côté, j'ai retenu les informations des avis de la CNIL et du Conseil national du numérique et de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui m'ont semblé très intéressantes d'un point de vue juridique. Puisque la CNIL à deux reprises avant et après la mise en œuvre de Stop Covid s'est prononcée. Le 24 avril 2020, nous avons un premier avis de la CNIL sur le principe même de mise en œuvre de cette application. La CNIL indique qu'il faudra respecter certaines conditions pour être conforme au RGPD, notamment elle insiste sur l'usage volontaire de l'application, l'utilisation de pseudonymes, une utilisation temporaire et évidemment une conservation des données limitée dans le temps, la sécurisation des données, ainsi qu'une vigilance particulière pour le traitement des données de santé. Pour la CNIL, la finalité de cette application, elle doit être strictement limitée à l'alerte de personnes exposées au risque de contamination et surtout ne pas avoir pour objet de surveiller le respect des mesures de confinement ou d'autres obligations sanitaires, ou bien même d'organiser une prise de contact avec la personne alertée ou de réaliser un suivi du nombre de personnes qui auraient été infectées, voire d'identifier des zones dans lesquelles ces personnes se seraient déplacées. Donc la CNIL avait considéré que dans ces conditions, la mise en œuvre de Stop Covid, sous réserve qu'elle soit utile à la stratégie de déconfinement et qu'elle soit conçue de façon à protéger la vie privée des utilisateurs, était envisageable. Le 25 mai 2020, la CNIL a rendu un second avis sur cette fois-ci le projet de décret encadrant Stop Covid. La CNIL va rappeler que cette application doit être mise en œuvre avec prudence. Elle relève que l'application est utile et que le traitement est nécessaire et qu'il existe des garanties pour limiter les atteintes à la protection des données. Elle retient également que la durée limitée à 6 mois est satisfaisante. Elle émet cependant quelques critiques hein, sur la manière de fonctionnalité de cette application et également aussi sur les informations qui sont transmises, notamment à l'égard des mineurs et des parents des mineurs. Elle évoquait aussi dans cet avis le libre accès à l'intégralité du code source de l'application. Nous avons ensuite un arrêt qui est également favorable par rapport à cette application qui a été émis par le Conseil national du numérique avec quelques recommandations qui n'ont pas toutes été suivies des faits et en revanche beaucoup plus limitées. La Commission nationale consultative putative des droits de l'homme, eh bien, elle s'était auto-saisie, hein, car elle s'était auto-saisie sur ce projet et a considéré que, en rappelant que la conformité à la seule réglementation sur la protection des données personnelles n'équivaut pas au respect des droits et libertés fondamentaux, et donc elle émet un avis en mettant en avant une atteinte disproportionnée. L'Ordre des avocats du barreau de Paris a également déconseillé l'utilisation de cette application. Alors aujourd'hui, qu'en est-il ? La CNIL a lancé dès le mois de juin une série de contrôles qui vont se poursuivre jusqu'à la suppression des données, donc sur une période quand même de plusieurs mois, et ces constatations permettront, si besoin, eh bien, pourront être suivies, si nécessaire, de sanctions. Comment l'application est reçue par le public ? Eh bien, le bilan, il est mitigé à ce jour. Il y a 1,5 million de téléchargements, ce qui représente à peine 2% de la population française qui aurait téléchargé l'application. On ne sait même pas si ceux qui l'ont téléchargé, eh bien, en ont eu fait une utilisation active. Est-ce qu'ils sont vraiment des utilisateurs ? On ne sait pas. Le gouvernement a lancé une nouvelle campagne de communication et qui est teintée quand même avec certaines polémiques, notamment sur la localisation des serveurs et également sur la maintenance et l'hébergement qui auraient été confiés à une société sans appel d'offres. Il faut également savoir que dans d'autres pays, de telles applications ont également été développées et proposées à la population et que certains ont commencé à suspendre leurs applications, notamment la Norvège. Donc en conclusion, c'est une application Stop Covid qui fédère peu d'utilisateurs, avec quelques points juridiques qui demeurent quand même assez flous, et donc on peut s'interroger sur l'avenir de cette application dans les prochains mois. Ce sera donc à suivre.
Ben, merci Noémie. Je rajouterai aussi que ce matin, dans un article, Mediapart explique que la collecte de données est beaucoup plus large que ce qui était annoncé et notamment prévu par le décret. Donc je renvoie les personnes qui écoutent l'émission à l'article de Mediapart et aussi évidemment aux références que nous mettrons sur april.org et causecommune.fm. Mais écoute, merci Noémie pour cette reprise de chronique. Et puis j'espère que après la pause estivale, on se retrouvera dans le studio de la radio pour ta prochaine chronique en septembre.
Ce sera avec grand plaisir.
Bon, merci Noémie. Passe un bel été.
Au revoir.
Alors, on va faire une pause musicale. On va écouter Gymnastka par Alexander Zelanov. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune. Я ведь романтик, нахуй я бантик, ботинки.
Nous venons d'écouter Gymnastka par Alexander Zelanov, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. On va passer au sujet principal. Le sujet principal qui va porter donc sur l'April, nous avons intitulé ce sujet principal au cœur de l'April. Depuis 1996, l'April, donc l'association de promotion et de défense du logiciel libre, diffuse l'esprit du libre. Notre vision étant que la liberté informatique est un enjeu de société. Alors l'émission Libre à vous est un de nos projets, mais il y en a bien d'autres. On va essayer aujourd'hui, et dans le cadre également d'une deuxième émission mardi 30 juin, de vous faire découvrir les coulisses de l'association, quelques actions, découvrir les personnes, donc soit membres de l'équipe salariée, soit bénévoles, qui nous permettent d'avoir une association vivante et active pour la promotion et la défense du logiciel libre. Donc on va tenter, modestement, de vous diffuser l'esprit de l'April. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation, à nous faire des remarques, à nous poser des questions. Pour cela, rendez-vous sur le salon web de l'association, site causecommune.fm, bouton de chat, salon, libre à vous. Alors, avec moi, il y a 5 personnes. Je vais commencer simplement par une petite question. Alors, je vous ai prévenu chacun et chacune d'entre vous que de vous présenter, d'où vous venez, ce que vous faites de l'April, de façon courte, évidemment. Donc, je vais commencer en fait par l'ordre des gens que je vois affichés sur le salon Mumble. Mumble est l'outil de visioconférence, enfin d'audioconférence qu'on utilise pour l'émission du jour. Donc, je vais commencer par Antoine. Antoine Bardelli.
Oui, bonjour. Donc, eh bien, moi, je suis designer graphique ou graphiste, et j'interviens sur les listes sensibilisation de l'April.
Super. Donc, Magali Carnero.
Alors, bonjour. Moi, je suis libraire et j'anime les stands de l'April, et je fais aussi un peu de radio avec le décryptualité tous les lundis soirs.
Merci, Magali. Isabelle Avani.
Bonjour à tout le monde. Donc moi, j'ai fait partie de l'équipe salariée depuis 2014. Je suis coordinatrice vie associative et responsable de projet. Je m'occupe de la gestion des membres, de l'organisation administrative et des nombreuses actions liées à la sensibilisation, et notamment auprès du grand public.
Laurent Poujoula.
Bonjour, je suis informaticien. Je suis membre de l'April depuis 2016. Je participe au Chapril comme animateur des services Valise et Mumble, et je participe aussi aux membres de traduction GNU.
Alors bien sûr, on aura l'occasion tout à l'heure d'expliquer ce qu'est le Chapril. Et dernière personne, Quentin Gibault.
Oui, bonjour, donc moi c'est Quentin, alias Kugul. Je suis membre de l'April depuis 2009, et puis après je suis rentré dans l'aspect technique en 2012 avec un stage pendant mes études, et je suis revenu après en 2016 en tant que bénévole sur l'admin 6 de l'April, et je suis actuellement le scrum master de l'équipe admin 6 de l'April, donc on gère l'infrastructure et tous les outils nécessaires au fonctionnement de l'association.
Merci Quentin, on aura l'occasion d'expliquer tout à l'heure ce que c'est qu'un Scrum Master. Alors déjà, première remarque que je vais faire, c'est que sur les 5 personnes qui sont présentes, il y a 2 informaticiens et les 3 autres personnes ne sont pas informaticiennes. Donc l'April n'est pas une association remplie d'informaticiens ou d'informaticiennes, mais au contraire, c'est une association très diverse. Alors, vous avez vu 5 personnes avec moi, donc on va aborder plusieurs sujets, on fera une deuxième émission avec d'autres personnes. On va commencer par la partie sensibilisation. L'April, c'est promouvoir et défendre le logiciel libre. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la partie promotion. Et donc on va commencer notamment par le groupe de travail sensibilisation, là, notamment avec Antoine et Isabella, qui sont deux personnes très actives au niveau de ce groupe. Donc bah, déjà, première question, Isabella, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait ce groupe, les objectifs et puis le fonctionnement du groupe de travail, donc sensibilisation?
Oui, donc le groupe de travail sensibilisation a pour but de proposer des outils de communication pour sensibiliser notamment le grand public au logiciel libre et au format ouvert. Et quand je parle d'outils de communication, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des flyers, des dépliants, des affiches, des autocollants, voire des panneaux d'information comme l'Expo Libre. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et au cours des 2 dernières années, on a lancé aussi de nouveaux projets, un quiz sur les enjeux de l'informatique et un jeu de plateau coopératif. C'est important de dire que toutes les ressources sont disponibles sur notre site et sont publiées sous licence libre. cela va de soi. De cette façon, tout le monde peut les utiliser, les partager, les adapter à ses besoins. Et puis, pour ce qui concerne le fonctionnement, bah, le groupe en fait a une liste de discussions dédiées qui est ouverte à tout le monde. Donc, n'importe qui peut, qui est intéressé à ces sujets peut s'inscrire, membre de l'April ou pas. On fait aussi des réunions régulières, donc chaque troisième jeudi du mois. Donc, avant cette situation sanitaire particulière, on faisait des réunions physiques à Paris et depuis le confinement, on a l'habitude de les faire à distance. Ça marche très bien. Et puis, on a aussi une page wiki et on travaille énormément sur les PAD, c'est-à-dire des documents collaboratifs. Auquel chacun et chacune peut contribuer à distance. Voilà. Et puis, c'est important de dire, comme tu rappelais tout à l'heure, on parle de la promotion, donc il ne faut pas être forcément informaticien ou informaticienne pour participer au groupe. On parle de sensibilisation, des principes, de la philosophie du logiciel libre. Et donc, voilà, n'importe qui est intéressé par ce sujet peut participer, peut nous donner des idées, faire des relectures, faire des propositions, relever de points d'amélioration sur les ressources qu'on a produites. Donc, c'est vraiment un groupe ouvert à tout le monde.
Alors, merci Isabella. Avant de passer la parole à Antoine, on va essayer, au-delà de l'émission, aussi de mettre en valeur un petit peu des points communs à l'ensemble des actions de l'April et des groupes de travail. Une chose importante que tu as dite, c'est que la quasi-totalité des activités de l'April sont des activités qui sont publiques. C'est-à-dire que n'importe qui soit, que la personne soit membre ou pas de l'April, peut participer à l'activité. Donc, typiquement, le groupe de travail de sensibilisation, c'est simplement l'inscription sur une liste de discussion qui permet de participer et participer à des réunions sans vérification de que la personne est membre ou pas. Parmi les outils que tu as cités, un outil qu'on utilise beaucoup, donc tu as parlé du PAD, donc en fait c'est des bloc-notes, hein, c'est des outils en ligne qui permettent de modifier du texte sans avoir à se créer un compte, etc. Ben, un autre exemple d'utilisation de bloc-notes, c'est la préparation de l'émission Libre à vous. Toute la préparation de l'émission Libre à vous, si vous allez sur april.org ou sur causecommune.fm, vous trouverez le lien, se fait via un bloc-notes dédié sur lequel on place la plupart de nos idées nos idées d'émissions, nos idées de personnes à inviter. Pour les musiques, on a aussi un bloc-notes dédié, donc voilà, on les met, on les choisit là-dedans et d'autres personnes peuvent contribuer. Donc voilà, ça c'est un point essentiel dans l'activité de l'April, c'est que c'est une activité qui peut être faite par n'importe quelle personne, qu'elle soit membre ou pas de l'April. Alors d'ailleurs Antoine, donc Antoine Bardelli, toi tu es graphiste, alors je ne me souviens pas si quand tu as rejoint le groupe Sensibilisation, tu étais déjà membre ou pas de l'April, mais à la limite peu importe, mais en tout cas voilà, toi tu es arrivé à un moment, alors il y a quelques années maintenant, je pense plus d'une dizaine d'années, où on avait bien besoin de graphistes, et donc toi tu es arrivé sur le groupe Sensibilisation, et tu as commencé par travailler sur un projet, qui existe toujours, hein, qui est un poster et un dépliant qui s'appelle le logiciel libre Comment ça marche. Alors quelle était ton expérience de contribution justement à ce groupe Sensibilisation?
Déjà Isabella a bien décrit le groupe. Effectivement, je suis arrivé il y a plus d'une dizaine d'années dans le groupe Sensibilisation parce que je voulais contribuer au logiciel libre. Donc moi avant j'avais déjà passé au logiciel libre, on va dire 2 ans avant. Mais c'est vrai que j'avais envie de contribuer. Donc je me suis tourné vers quelque chose qui était le plus proche de mes activités, qui était j'étais directeur artistique en agence à l'époque. Donc ça m'intéressait de mettre en application pour le logiciel libre que je trouvais pas forcément assez bien mis en valeur dans la communication générale, qu'on ne voyait pas forcément. Il n'y avait pas forcément le logiciel libre n'a pas des moyens d'entreprise pour se payer de la communication. C'était intéressant d'intervenir pour moi à ce niveau-là. Après le groupe Sensibilisation, quand je suis arrivé, effectivement, il y avait quand même beaucoup de projets qui étaient en place, des choses qui se faisaient faites, mais il fallait quand même travailler l'aspect final pour que on puisse le diffuser avec plus d'impact vers le public. Donc c'était une des premières intentions quand je suis arrivé sur ce groupe. Et après, bien entendu, il y a dans la liste Sensibilisation tout un process qui est plus ou moins, on fait tous un petit peu comme on le souhaite. C'est pas forcément un process établi, mais il y a des étapes où on discute beaucoup sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de prendre en charge. Et puis, on propose, on fait le travail un petit peu dans son coin des fois, et puis on propose une version, et puis il y a des personnes qui notent, etc. Et puis petit à petit, on arrive à des outils de communication qui sont finalement assez aboutis, mais qui ça prend effectivement un certain temps.
Et donc ça, c'était il y a combien de temps est-ce que tu t'en souviens?
C'était en 2011, à peu près.
D'accord, je croyais que c'était plus ancien. Alors 2011, c'est quand même presque 9 ans, et donc tu continues à contribuer. On parlera tout à l'heure aussi d'un autre projet qui est l'Expo Libre, qui a commencé il y a bien longtemps et dont on vient de publier récemment une version italienne, après les versions espagnoles, anglaises et françaises. Donc, est-ce que quand tu es arrivé, donc tu disais à l'époque que tu étais directeur artistique, est-ce que la communauté du groupe Sensibilisation de l'April, par rapport à ton expérience d'avant, c'est quoi? C'était pareil? Est-ce que les remarques étaient du même format? Est-ce que c'était plus compliqué de travailler
avec
nous?
Non,
comment c'était?
On arrive dans un... Tu vois, moi je suis arrivé dans un univers qui est totalement différent, puisque je venais d'un monde comme qui est... la création graphique ou la création artistique, c'est relié au droit d'auteur, et puis tout le monde travaille avec des logiciels propriétaires. Donc c'est quand même une j'étais arrivé dans un, c'était un petit peu le loup dans la bergerie. Mais effectivement, une fois que on a acquis tous les principes du logiciel libre et tout ce qui relève des licences libres, etc., on peut aussi faire la même chose. Donc effectivement, quand je suis arrivé, c'était un petit peu, on se demandait un petit peu comment j'allais pouvoir participer.
Quand tu disais, on se demandait comment t'allais pouvoir participer, c'est-à-dire qu'en fait, toi, ton expérience d'outil, notamment pour la création de, bah, que ce soit d'images, de flyers, c'était que le logiciel libre était en retard ou pas à cette époque-là?
Oui, c'était, on va dire, c'était pas en retard, mais c'était que ça prenait beaucoup plus de temps à réaliser pour le faire les mêmes tâches.
D'accord.
Donc les flux de production sur des logiciels propriétaires dans ce domaine sont assez avancés, mais aujourd'hui on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut avec les logiciels libres sans problème. On peut faire la même chose. Voilà, faut juste connaître les logiciels, et c'est effectivement ce que j'ai fait en arrivant. C'est que j'ai vu que devais passer par des logiciels libres à fond pour pouvoir produire les documents. Donc c'est effectivement une année où j'ai appris tous les logiciels libres qui étaient les plus proches de mon métier pour construire, faire les documents de l'April.
Donc finalement, ça t'a permis d'augmenter ton capacité de travail et de découvrir une nouvelle informatique, comme aujourd'hui par exemple, si je me souviens bien, tu fais tes sites web même pour tes clients en WordPress et en SPIP. C'est-à-dire qu'ils sont deux logiciels libres pour créer des sites web.
Oui, aujourd'hui, oui, effectivement, le logiciel libre fait partie intégrante de mon offre, on va dire, professionnelle, ou de ce que je propose à mes clients, oui. Même s'ils n'en ont pas toujours conscience.
D'accord. En tout cas, je pense qu'il y a sur le site de l'April, d'ailleurs, un historique de nos productions de type sensibilisation. Je pense que vous verrez un avant et un après Antoine Bardelli sur la qualité. L'avant Bardelli, c'est sans doute très noir et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. L'après Bardelli, il y a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus d'images, beaucoup plus aéré, en tout cas c'est beaucoup plus joli et surtout beaucoup plus percutant en tout cas pour les publics cibles.
Alors ça se verra peut-être pas forcément si bien que ça la coupure quand même, mais il y a effectivement des documents qui sont déjà beaucoup plus illustrés, on va dire, parce qu'effectivement avant il y avait beaucoup de textes, c'était très verbeux effectivement, donc il fallait beaucoup travailler sur la réduction ou sur la synthèse des textes bien avant de commencer à faire des choses visuelles, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des process qui sont assez longs sur la liste sensibilisation, parce qu'effectivement les textes, ça se discute beaucoup, alors que le graphisme, bon, finalement, étant donné qu'il y a moins de graphistes ou de designers sur la liste, bah, je suis un petit peu en autonomie.
Alors ça, c'est un point intéressant. Alors je précise que sur le salon, Quentin précise qu'on devrait plutôt parler de l'époque pendant Bardelli plutôt que après Bardelli, parce qu'Antoine Bardelli est évidemment toujours avec nous, et j'espère pour longtemps. Alors justement, tu parles du process, je vais relancer Isabella sur ce sujet. Vraiment sur la partie textuelle, donc pas sur la partie effectivement des images, là où finalement Antoine se retrouve peut-être un petit peu tout seul, donc on encourage évidemment les gens graphistes, les personnes graphistes à rejoindre le groupe sensibilisation. Donc sur les textes, comment ça se discute les textes, quel est le processus pour arriver finalement à un texte validé, Isabella?
Oui, c'est une bonne question. Donc il y a, j'ai en tête deux possibilités. Déjà une personne qui a envie de proposer un outil, par exemple une nouvelle affiche, et qui va du coup proposer cet outil sur la liste de discussion. et qui va peut-être ouvrir un pad pour commencer déjà à rédiger quelques suggestions de texte. Ça peut être aussi une proposition de ma part lors de réunion. Je peux dire voilà, je vous propose de travailler, de réfléchir à ce sujet. Donc on ouvre un pad ou bloc-notes pour mieux nous faire comprendre et on commence à faire une tempête de cerveau, comme on dit en français, pour donner des idées. Donc on va dire que l'éditeur de texte en ligne, c'est vraiment l'outil le plus pratique parce que c'est très intuitif, il y a pas besoin d'inscription, donc il suffit juste de se connecter avec un navigateur, on peut commencer à écrire, et en plus chaque contributeur à une couleur, donc c'est possible aussi de suivre les propositions, c'est possible de faire des commentaires. C'est une façon de travailler qui est très enrichissante, très inspirante et aussi très très bruyante parfois. C'est-à-dire que voilà, il peut y avoir beaucoup de propositions, de variantes, de personnes qui sont pas d'accord sur une phrase, qui voudraient la reformuler. Mais ça fait partie du processus et c'est comme ça qu'on arrive à faire un texte.
Oui, tu disais effectivement sur les textes, il faut être précis, c'est la sensibilisation. Il faut d'autant plus précis que le texte peut être court. On va prendre un exemple qui est l'Expo Libre. Alors, l'historique de l'Expo Libre, donc le site web consacré à l'Expo Libre, donc c'est expolibre.org, hein, c'est actuellement 8 panneaux de sensibilisation au logiciel libre. Les premiers panneaux, c'était pas nous qui les avions fait, il y avait beaucoup de textes, et l'une des premières contributions d'Antoine a été de dire, bah justement, il faut revoir le graphisme, mais il faut aussi réduire le texte. Et donc dans ce cadre-là, en réduisant le texte, forcément, ben on met moins de texte, donc il faut être plus précis sur les mots, en sachant qu'en plus on s'adresse à un public, l'Expo Libre, c'est un public de grand public. Et l'un des choix qui avait été fait, si je me souviens bien, c'est aussi de dire on va pas mettre des noms de logiciels ou autres pour ne pas dater l'Expo Libre, parce qu'on considère que l'Expo Libre doit être affiché dans un endroit où il y a des gens qui vont répondre aux questions. Antoine, est-ce que je résume bien un petit peu ta contribution sur la partie Expo Libre et qu'est-ce que tu en as retiré toi de l'Expo Libre version donc 2 en français et ensuite les différentes traductions?
Alors oui, effectivement, l'idée c'est de synthétiser. Et effectivement, bah entre la version 1 et 2 de l'Expo Libre, il y avait vraiment beaucoup de textes. Et donc, on peut faire quelque chose de beaucoup plus synthétique sur l'Expo Libre 3. Donc, le fait de faire quelque chose de plus synthétique, ça permet aussi d'avoir plus de place et puis de faire travailler un petit peu, mettre un petit peu en avant des visuels. Donc, ça, c'était effectivement l'objectif. Et finalement, je pense qu'on a quand même relativement bien réussi pour ce projet. Mais effectivement, il y a des projets qui sont effectivement du même ordre. Je veux dire qu'au début, il y a beaucoup de contenu. Et puis, il faut vraiment le réduire pour qu'il y ait vraiment une synthèse pour le grand public. Et ça, c'est vraiment effectivement très important.
Oui, tout à fait. Alors, je vois sur le salon qu'il y a une remarque sur les pads, hein, les bloc-notes. Hein, en fait, un outil, effectivement, ne suffit pas à lui seul. Il y a toute une méthode de travail. Justement, l'une des actions actuellement de Isabella, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est d'accompagner les gens, les personnes à utiliser les bloc-notes et peut-être trouver des nouvelles versions, des nouveaux outils pour permettre effectivement aux personnes néophytes de pouvoir contribuer facilement. Alors, Isabella, tu en parles rapidement maintenant, comme ça, après, on va passer un petit peu à des aspects un peu plus techniques, mais on reviendra évidemment sur la sensibilisation. Donc Isabella, sur justement ces fameux bloc-notes.
Oui, donc le pad, voilà, c'est très utile, mais dans le cas d'un texte particulièrement long et complexe, on s'est rendu compte qu'on avait du mal à recruter de nouvelles personnes contributrices. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'était un peu brut. Et un peu difficile aussi pour ce qui concerne la navigation, c'est-à-dire que les personnes disaient mais je trouve pas l'information, je le trouve trop long, je comprends pas trop ce qui se passe. Donc l'idée c'est de faire évaluer notre outil actuel pour que ce soit plus agréable à lire, pour que ce soit plus facile concernant la navigation et que du coup ça tire du monde et ça donne envie de participer. Donc l'outil c'est important, mais voilà, il faut prendre en compte aussi les besoins et les attitudes des personnes qui souhaiteraient participer. Donc on est en train de chercher.
Alors exactement, et donc comme je dis actuellement, l'outil principal qu'on utilise notamment pour préparer la radio, c'est un bloc-notes, hein, vous trouvez les références sur april.org et causecommune.fm, et vous verrez que c'est assez long, mais tant qu'on n'a pas trouvé de meilleur outil, en tout cas, on continue à l'utiliser, mais surtout le point important, c'est que vous pouvez contribuer en proposant des sujets, en proposant des musiques, donc n'hésitez surtout pas. Alors tu parlais de points techniques, ça va justement, on va enchaîner avec l'aspect technique au niveau de l'April, même si on va revenir évidemment tout à l'heure sur la sensibilisation, et qu'on s'en éloigne pas totalement en fait avec l'un des deux projets. Là, on va passer un petit peu donc à l'admin 6 et à Chapril. L'admin 6, c'est donc l'administration système, donc c'est la gestion des serveurs et des services pour l'April. Et Chapril, c'est des services libres et loyaux proposés par l'April pour toute personne qui souhaite les utiliser. Alors, on va commencer donc déjà par une courte explication sur ces deux groupes de travail. Donc, pour l'admin 6, Quentin Gibault. Quentin, explique-nous ce que fait, quel est l'objectif de ce groupe de travail admin 6 et comment il fonctionne.
Oui, donc le groupe de travail Admin 6, on est une petite équipe de bénévoles qui sont tous membres de l'April. Et ça, c'est une petite contrainte qu'on a, c'est que comme on gère un petit peu les données, on a un engagement personnel à faire les choses correctement, donc il faut au moins que les personnes soient adhérentes. Donc on est quelques bénévoles et on gère en fait l'infrastructure, donc tous les serveurs, tous les services, tous les outils techniques qui permettent à l'association de fonctionner. Donc ça va être le site web, les différents services en ligne, ce Mumble qu'on utilise là actuellement pour l'émission de radio. Et donc c'est à la fois du travail d'installation, mais aussi beaucoup de travail de maintenance et de réparer les pannes quand elles surviennent, de changer un disque dur quand il y a un disque dur à changer sur le serveur, etc., etc. Et donc bah, la particularité de ce groupe, c'est bah, un peu comme tous les groupes de l'April, c'est d'être composé que de bénévoles, ce qui impose certaines contraintes en fait sur ce métier-là, qui sont pas forcément présentes professionnellement, c'est qu'on est peut-être sur du temps un peu plus long que professionnellement, car bah, c'est suivant les agendas des gens qui y contribuent. Et donc c'est pour ça qu'on a une organisation qui se force à avoir en fait des réunions mensuelles pour faire le point sur l'infrastructure et d'avoir une certaine agilité qu'on a mis en place pour pouvoir se forcer en fait à se poser les questions des choses qui sont à faire en ce moment, les différentes urgences, etc. Après, on a adapté forcément à l'agilité pour qu'elle soit un petit peu plus sur le long terme que sur le court terme, parce qu'évidemment c'est difficile d'être sur des temps très courts en tant que bénévole, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Et je voulais refaire un petit parallèle du coup avec ce que Antoine disait sur le fait de se forcer à utiliser des logiciels libres. On a la même chose en fait dans ce groupe de travail, c'est que tous les outils de l'April sont des logiciels libres, et donc c'est aussi intéressant professionnellement pour nous, parce que ça nous pose dans un contexte spécial où si notre métier c'est de faire de l'admin 6, dans le contexte du travail, on va pas forcément avoir les contraintes d'utiliser que du logiciel libre, et donc ça va être facile de tomber dans on va utiliser tel logiciel privateur à côté et ne pas se poser de questions de est-ce qu'il y a vraiment une solution libre disponible. Et donc là, une manière aussi de s'émanciper dans ce groupe de travail, c'est de se forcer à avoir ce contexte 100% libre, et donc de chercher vraiment que des solutions libres pour répondre à tous les besoins qui peuvent se présenter. Et peut-être là, pour faire un petit parallèle donc avec Chapril, le projet Chapril a été créé dans un premier temps par l'équipe Admin 6, parce qu'il fallait bien démarrer de quelque part, mais justement on l'a créé de manière à ce qui s'émancipe lui-même, et toujours avec l'idée que ce soit indépendant l'un de l'autre, comme ça il n'y a pas de conflit sur l'infrastructure et sur les différents outils.
Quentin, alors sur le salon web, il y a mon collègue Étienne Gonu, il y a aussi Isabella et moi-même qui dit qu'on tient à saluer la réactivité des admins 6 de l'April, que même si vous êtes bénévole, vous êtes très réactif. Et donc déjà, vraiment félicitations et un grand merci. En introduction, tu as employé un mot tout à l'heure, Scrum Master, donc on veut que tu mettes un terme à ce suspense. C'est quoi un Scrum Master en quelques mots?
En fait, ça fait partie de la philosophie de l'agilité. C'est simplement une manière de concevoir le besoin et les choses à faire en fait, on a défini plusieurs rôles. Le rôle d'un product owner, donc c'est la personne qui gère le produit, entre guillemets. Le rôle du Scrum Master, c'est la personne qui gère les scrums d'agilité. Et donc, en fait, c'est simplement qu'il y a une personne qui se positionne simplement dans la réflexion de qu'est-ce qu'on a besoin pour l'April, et il y a une personne qui va se positionner en comment répondre à ce besoin, et c'est cette personne-là qui va du coup gérer l'équipe et le travail dispatcher en fait les tâches suivant les bénévoles, les disponibilités et les choses à faire.
Alors donc effectivement toi tu es le Scrum Master, donc c'est toi qui, on va dire, anime l'équipe d'Admin 6, et c'est un sort de coordinateur. Et moi je suis ce qu'on appelle Product Owner en anglais, alors je sais pas comment ça se traduit, mais en fait je représente en gros quelque part l'association et j'exprime les besoins. Et donc chaque mois, comme tu l'as tout à l'heure dit, donc à 21h sur Mumble, on fait un point entre moi et puis l'équipe sur les besoins, où on en est, etc. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, mais la Effectivement, la majeure partie de l'admin 6 de l'April est gérée par des bénévoles. Alors, tu viens d'expliquer effectivement que l'admin 6, donc c'est pour les services de l'April, pour l'association, ses membres, son équipe salariée. Et il y a quelques années, on a lancé le Chapril pour participer donc au collectif Chaton de Framasoft. Donc Laurent Pouvoula, toi tu fais partie du Chapril, donc explique-nous ce qu'est le Chapril et puis quelle est la différence d'objectif et peut-être la différence de fonctionnement ou de complémentarité avec le groupe admin 6. Laurent Poujoula.
Alors, le Chapril, c'est un groupe qui a pour but de montrer qu'on peut utiliser au quotidien des services libres. Pas forcément directement des logiciels libres, mais au moins des services libres. Pour montrer aux gens qu'on peut se passer des services des GAFAM, tout simplement. Donc, pour ça, l'April s'est doté du groupe Chapril. Et en se basant sur l'infrastructure construite par les admin 6, on a un groupe d'anim 6 et non pas d'admin 6 qui chacun va gérer un service. Alors, la gestion de ces services, chacun choisit le service qui lui plaît le plus. Évidemment, on en discute, on met pas n'importe quoi. Et puis, le met en place, le déploie dans l'infrastructure du Chapril et après le gère et l'anime, d'où le nom anim 6 d'ailleurs.
D'accord, on va rappeler que les GAFAM sont les fameux géants du net qui se gavent de nos données personnelles, hein, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et autres. Le site Chapril sur lequel vous pouvez trouver les services Chapril, c'est chapril.org. Donc par exemple, vous allez trouver un service de bloc-notes, vous allez trouver un service de copie de documents, enfin d'hébergement de fichiers, vous allez trouver un serveur d'audioconférence Mumble et d'autres services qui existent et qui vont arriver. Et d'ailleurs, dans l'émission du 30 juin, nous aurons Christian-Pierre Maumont qui est l'animateur du Chapril. Donc ces services, contrairement effectivement aux services de l'admin 6, sont ouverts à toute personne qui le souhaite, que vous soyez ou pas membre de l'April, et ils sont offerts librement et gratuitement, et nous on a l'engagement de le maintenir sur le long terme. Alors je vois quand même que le temps file, on va faire une pause musicale. On va écouter Memories par Hatch. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Nous venons d'écouter Memories par Hatch, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Donc nous allons poursuivre notre tour d'horizon des activités de l'April et du fonctionnement de l'April. Alors, juste avant la pause musicale, on parlait un petit peu de technique, on va y revenir après. Mais je voudrais qu'on aborde un nouveau sujet qui est un petit peu lié au premier, la sensibilisation. C'est la présence de l'April à des conférences, à des événements, à des stands. Donc de l'importance de la présence à ces événements, quel type d'événements, etc. Donc là, je vais commencer m'a demandé en fait à Magali Garnero, qui a tenu de très nombreux stands pour l'April. Alors Magali, est-ce que tu peux expliquer pourquoi il est important selon toi d'être présent à des événements, et à quel type d'événements l'April est présent?
Alors l'April est présent à de nombreux événements, que ce soit des événements pour libristes comme les rencontres mondiales du logiciel libre, ou les journées du logiciel libre à Lyon, ou le Capitole du Libre à Toulouse. Donc là, on est un peu entre informaticiens, donc on tient au courant toutes les actions que l'April fait, parce que l'April fait énormément de choses et c'est quasiment impossible de tout suivre. Et puis il y a d'autres événements beaucoup plus grand public, où on est allé à la fête de l'UMA. On est allé au Geek Ferries, à Geekopolis à l'époque où ça existait encore, au Paris Open Source Meet, où là c'est plutôt des gens du grand public qui connaissent pas forcément grand chose à l'informatique et qu'on essaye de les sensibiliser aux enjeux du logiciel libre, à toutes les lois qui sont passées qui vont à l'encontre du logiciel libre, ou tout simplement au risque que les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, font peser sur le logiciel.
Donc c'est l'occasion, évidemment, je suppose, de diffuser, distribuer des documents de sensibilisation produits par le groupe Sensibilisation, hein, que ce soit donc des pliants, de mettre l'expo libre, également du parler évidemment du chapitre. Est-ce qu'il faut des connaissances particulières et notamment pointues pour animer un stand de l'April, pour expliquer, voilà, pour être présent sur un stand de l'April? Est-ce qu'il faut des compétences particulières?
Alors faut aimer parler. Faut savoir communiquer avec des gens qu'on connaît pas, tout simplement, ne pas avoir peur d'aller vers les inconnus. Faut quand même se tenir au courant de l'actualité de l'April. Et puis depuis des années, depuis qu'Isabella est là, mais même avant avec Aurélia, il y a toujours une très bonne ambiance sur les stands, ce qui permet aux bénévoles de se connaître, de discuter. Des fois il y a des projets qui se montent comme ça, et c'est vraiment vraiment sympathique de participer au stand sans avoir beaucoup besoin de connaissances, quoi. Typiquement, suivre la lettre d'information suffit amplement pour tenir un stand.
Et on va préciser que les groupes dont on a parlé juste avant, et notamment Admin6 et Chapril, c'est un engagement un petit peu sur la durée, parce que l'Admin6, si les serveurs de l'association tombent, on est mal. Et le service Chapril, comme l'a expliqué tout à l'heure Laurent, on s'engage sur la durée à maintenir un service Chapril, parce qu'il va être utilisé par des personnes. Les stands, par contre, c'est une contribution possible ponctuelle. Et je crois qu'on a d'ailleurs plusieurs membres dont la contribution est d'être présent à des stands. Ils prennent une journée ou deux, parce que c'est souvent des stands en semaine. Et donc ces gens-là, ça leur permet de contribuer ponctuellement à l'association.
L'avantage d'aller sur des stands, alors Christian et moi y allons souvent, Isabella également, à chaque fois qu'on est dans une autre ville que Paris, on rencontre les bénévoles du coin. Donc on rencontre la communauté locale qui n'ira pas forcément à d'autres événements dans d'autres villes. Donc ça permet vraiment de créer du lien avec les différents endroits où on va.
Alors je vais demander à Isabelle ce qu'elle en pense, mais d'abord parce que là je suis en train de regarder le salon web de la radio, donc n'hésitez pas à nous rejoindre un site web causecommune.fm, vous cliquez sur le bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon dièse libre à vous. Je vois que donc que nous dit, il revient sur la partie sensibilisation de tout à l'heure. Du coup, le choix de l'outil libre comme postulat influence la méthode de travail à cause de sa moindre disponibilité. Ça peut être déroutant voire bloquant en fonction des personnes auxquelles on s'adresse. Alors effectivement, c'est un point qui a été évoqué au début par Antoine, tout à fait. Néanmoins, nous ne sommes pas des gens qui, disons, repoussons tout le monde si la personne n'utilise pas 100% de logiciel libre. Un point, par exemple, qui peut être important, c'est que la personne peut produire un document de sensibilisation avec un outil privateur, mais si elle peut l'exporter, et d'ailleurs elle doit le faire, si possible, dans un format ouvert, nous, ça nous permet de le récupérer et ensuite de pouvoir le modifier avec des logiciels libres. Donc l'importance aussi des formats ouverts, et d'ailleurs, le groupe Sensibilisation a fait un dépliant et même un mini-site web sur les formats ouverts que vous retrouverez en référence évidemment sur les pages consacrées à l'émission. Donc voilà, c'est une excellente remarque, mais effectivement, voilà, on essaye d'accompagner les gens, comme le dit d'ailleurs Christian Pierre Maumont qui est sur le salon. Donc Isabelle la bouquinette venait juste de parler des stands et de la bonne humeur, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me marque toujours, en fait, c'est l'incroyable bonne humeur qu'il y a sur les stands. On sent presque une une famille, je sais pas, mais j'ai dit ça sur le côté un petit peu. Moi, j'avais l'impression, c'est vrai que je suis marqué par le fait qu'il y avait une vraie bonne ambiance sur les stands. On a l'impression d'avoir une petite famille, une petite communauté interne. D'ailleurs, c'est un petit peu ça dans la prise. C'est un peu une communauté de différents projets qui, de temps en temps, se retrouvent lors d'événements plus grands, que ce soit des assemblées générales, des April Camps, c'est-à-dire sur un week-end ou même sur des visioconférences.
Et on a parlé aussi peut-être des apéros April ou pas encore?
Ah, on n'a pas parlé des apéros April. Vas-y, parle-nous des apéros April, effectivement.
Voilà, donc déjà, je suis contente d'entendre que vous vivez cette ambiance joyeuse, chaleureuse sur nos stands. Moi, je suis de l'autre côté, donc je suis bien, je suis contente d'avoir les bénévoles avec moi, mais ça fait plaisir, voilà, d'avoir cet autre point de vue. Donc oui, on participe à des événements qui sont organisés un peu partout en France, mais on organise nous-mêmes des événements, et tout particulièrement, on organise un événement moi qui s'appelle l'apéro de l'April et qui a donc lieu un vendredi par mois, donc c'est jamais le même vendredi, ça peut être le premier, le dernier, ça vraiment dépend de la disponibilité de l'équipe salariée pour animer la soirée, mais c'est une façon, voilà, c'est un rendez-vous informel autour d'un verre qui permet de discuter des actualités de l'April, mais aussi de mieux se connaître. Donc c'est vraiment important de cette fonction de, comment dire, d'animer la vie associative. On est une association, on a besoin de nos membres, et donc on cherche des occasions aussi pour les voir, pour les connaître, pour qu'ils se sentent bien à l'April.
Oui, ça c'est un point important, parce que contrairement à beaucoup d'associations, quand elles ont une équipe salariée, finalement elles se reposent sur l'équipe salariée. À l'April, on a toujours eu la volonté d'avoir à la fois l'équipe salariée, mais aussi les bénévoles. Donc les apéros, effectivement, c'est une façon de créer du lien, mais aussi de lancer des projets. Alors les apéros ont lieu au local à Paris, parce que l'équipe salariée est à Paris, mais comme tu le dis, il y a aussi des apéros en région, et évidemment, si vous nous invitez à venir, on viendra. Alors bon, actuellement c'est un peu plus compliqué, mais bientôt il sera de nouveau possible de voyager et de pouvoir aller aux apéros. Alors avant de passer la parole à Magali, qui je vois intervenir, je vois que sur le salon web on nous dit Françoise 62, j'aimerais bien voir l'April chez nous. Alors en fait, l'April, elle est pas loin de chez vous, parce qu'en fait elle est déjà sur les listes de discussion, donc en fait que vous pouvez rejoindre, et après physiquement il y a sans doute des événements sur lesquels on peut participer. Je ne sais pas du tout dans quelle région vous êtes, mais en tout cas, voilà, quand des groupes d'utilisateurs, d'utilisatrices locaux organisent des événements, nous on est présents, donc voilà, on peut se déplacer. Mais c'est vrai que l'équipe salariée est basée à Paris, mais une bonne partie de l'activité April se fait en fait en ligne. Et je pense que pour répondre donc à Étienne, qui est sur le salon web toujours, qui a un retour des apéros au local à Paris en septembre, et plus globalement, je pense, alors Boulogne-sur-Mer, écoutez, je pense qu'on serait ravis d'aller à Boulogne-sur-Mer s'il y a un apéro qui s'organise. On peut, et c'est un appel d'ailleurs aux membres, même au soutien de l'April, si vous voulez organiser un apéro, on l'a déjà fait plusieurs fois autour de l'April, vous trouvez une salle, un café ou autre, et nous on vient pour parler de l'April et répondre à vos questions. Alors je regarde sur l'autre salon maintenant, sur le salon interne Mumble, qui voulait réagir. D'abord il y a, on va commencer par Magali qui souhaiterait parler, et ensuite ce sera Quentin. Magali.
En fait, que ce soit les apéros organisés par l'équipe salariée ou que ce soit les centres, il faut savoir qu'on est très bien traité en tant que bénévole. C'est-à-dire qu'on arrive sur un stand, il y a Isabella qui dit « il faut faire ci, il faut faire ça », donc on sait exactement ce qu'il y a à faire. Ensuite, on est abreuvé si on a soif. Elle est vraiment au petit soin avec nous. Et puis, l'ambiance est chaleureuse. Les gens viennent nous rencontrer, ils sont heureux de retrouver l'April. Ils sont heureux des activités qu'on fait, ce qui fait que on se sent vraiment utile sur un stand ou même à un apéro où on peut discuter de sujets bien pointus, et c'est un bonheur d'être à l'April.
Quentin, tu voulais faire une remarque sur le 62, donc je suppose que c'est le département 62.
Oui, je ne sais pas exactement, c'est peut-être dans le nord, mais en tout cas c'est juste à côté. Je crois que c'était en 2017 peut-être. On avait fait un stand de l'April, donc directement sur un événement qui se situait à la Coupelle Neuve. Et c'était un événement un peu transversal où il y avait des associations écologistes, des associations un peu culturelles, et du coup il y avait aussi un stand de l'April qui était venu présent sur cet événement qui s'appelait l'Écoclico. Je crois que c'est organisé par l'association Les Petits Pas. Et donc,
oui, bah,
je crois que ça vient tous les deux ans, c'est pas dit qu'on y retourne et qu'on reparticipe, donc c'est une occasion de venir nous voir. Après, s'il y a d'autres événements sur d'autres villes de la région, on peut aussi participer. Mais sinon, dans la région Nord-Pas-de-Calais, tous les ans, on tient un stand avec les autres associations libristes de la métropole de Lille, donc à la braderie de Lille, le dernier week-end, ou c'est le premier week-end, je sais plus, dernier week-end d'août ou le premier week-end de septembre. Donc là, c'est pas forcément un stand April, c'est un stand commun, géré sans hiérarchie, mais entre eux, toutes les associations libristes du coin. Donc il y a Stinux, il y a CLIS 21, il y a d'autres associations comme ça du coin qui viennent et qui participent.
Alors, on va préciser, donc c'est le premier week-end de septembre, hein, la braderie de Lille. Et à Coupelle-Neuve, il y aurait le plaisir de rencontrer le trésorier, adminciste, François Poulain, enfin multi-activiste à l'April, vu qu'il habite pas très loin de Coupelle-Neuve, ou même à Coupelle-Neuve, je crois, je ne sais plus exactement. Là, on parlait un peu de vie associative, mais tant qu'à faire, parlons-en encore, hein, parce que peu importe le déroulé qu'on a prévu, j'ai envie de vous poser une petite question un peu personnelle. Alors, j'avais prévu un peu sur la fin, mais on va la faire maintenant, comme ça, je suis sûr que je vais la poser. J'aimerais bien savoir pourquoi individuellement, alors vous n'êtes pas tous obligés et toutes obligés de répondre, hein, vous avez le choix de ne pas répondre, mais pourquoi vous contribuez à l'April, qu'est-ce que ça vous apporte de contribuer à l'April, et qu'est-ce que vous avez éventuellement appris soit sur le libre ou soit sur vous en contribuant à l'April? Alors est-ce que, voilà, là, je ne donne même pas d'ordre d'intervention, vous me dites qui veut intervenir, ou j'espère qu'il y en aura au moins une personne qui interviendra. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question là sinon j'en désigne une ou un. Quentin, vas-y Quentin.
Moi personnellement, ça m'a permis déjà dès 2012, dans le cadre d'un stage, de découvrir aussi le métier d'admin 6 et de faire un petit peu une entrée professionnelle là-dedans. Donc c'est aussi découvrir les outils libres dans ce cadre-là, comme je pouvais le dire dans la partie sur le groupe de sensibilisation. Et après, c'est aussi on en retire une satisfaction de faire quelque chose pour le bien commun et pas forcément pour soi-même.
Super. Et je crois que c'est, je sais plus dans quel document on avait essayé un jour de lister un certain nombre de valeurs, et notamment le bien commun, l'intérêt général, l'utilité sociale revenait assez souvent pour les personnes qui contribuent à l'April. Alors je vois que Magali souhaite aussi répondre. Vas-y Magali.
Quand j'ai découvert le logiciel libre, je venais tout juste de monter ma librairie, donc je m'étais équipée en ordinateur, mais j'avais pris le minimum du minimum parce que pas beaucoup de sous. Et là j'ai mon geek à domicile qui est venu et qui m'a dit si tu veux faire ci, il y a LibreOffice, si tu veux faire ça, il y a Inkscape, si tu veux faire ça, il y a Scribus. Et il m'a apporté énormément de logiciels libres et gratuits qui m'ont vraiment aidé professionnellement. Et en tant que moi je suis au contact avec mes clients tous les jours, des trentaines de clients tous les jours, quoi, et j'adore partager ces connaissances là j'adore former mes collègues aussi au logiciel libre. Il y a vraiment une sorte d'échange de connaissances qui se fait et qui se fait à chaque fois, et sans le logiciel libre on pourrait pas transmettre aussi facilement parce qu'il y aurait toujours l'argent qui arrêterait les gens, alors que là ils rentrent chez eux, ils installent le logiciel, ils le testent et après on en discute.
Oui, il n'y a pas de barrière à la contribution, c'est effectivement un bon point. Je vois que Isabella veut aussi intervenir, j'en suis ravie. Vas-y, Isabella.
Donc moi, j'ai rejoint l'April pour des raisons professionnelles d'abord. J'ai cherché un travail et j'étais tombée sur une annonce. Je suis allée voir tout de suite le site et j'étais tout de suite assez impressionnée par la quantité d'informations, d'actions que l'association menait. Donc j'ai vu vraiment le caractère militant de l'association, le sérieux. Une fois que je suis arrivée, j'étais plus tournée au fit et je me suis vite convertie au logiciel libre, non seulement au quotidien, dans mon travail, c'est-à-dire que de toute façon, à l'April, on utilise que de logiciels libres, bien sûr. Donc, il faut s'adapter à des nouveaux logiciels, la plupart des fois. Mais c'est aussi les principes, la philosophie auxquels j'ai adhéré. Et je rebondis un peu sur ce que Bouki disait, Magali disait sur le partage. Oui, je suis complètement d'accord. C'est le partage qui est vraiment une caractéristique qui me tient à cœur. Et c'est aussi l'échange, c'est-à-dire que par principe, ce sont des logiciels auxquels n'importe qui peut participer. Donc, on peut vraiment n'importe qui peut contribuer avec ses compétences. Voilà, c'est ce caractère ouvert. Même ouvert à tout le monde, à toutes les compétences qui me plaît, entre autres.
Ben écoute, merci. Alors Antoine, toi aussi tu veux préciser, vas-y.
Oui, effectivement. Moi, je me rappelle quand j'ai adhéré, c'était essentiellement pour quitter un univers qui était très encarté. Il y avait beaucoup de logiciels propriétaires dans mon métier, et c'était vraiment une façon de se libérer un peu de tous ces carcans. Et puis il y avait aussi les aspects d'échange qui sont très importants et qui étaient aussi bien plus présents, donc j'ai trouvé bien plus présents dans les listes de l'April que des fois dans le cœur de mon métier, quoi.
Alors, avant de passer éventuellement la parole à Laurent, je ne sais pas s'il voudra parler là-dessus, mais je voudrais qu'il parle un petit peu de Chapril. Antoine, vu que tu as la parole, l'un des projets auxquels tu participes actuellement, qui est un autre projet important, et notamment pour la radio, pour l'émission de radio, c'est le futur site libreavoue.org. Donc, est-ce que tu peux nous en parler rapidement, voilà, qu'est-ce que tu es en train de mettre en place et quand ? Est-ce que question piège, évidemment. Quand est-ce que le site sera peut-être disponible ?
Quand est-ce que le site sera disponible ? Pour l'instant, on vient de valider. Tu viens de valider le plan, parce qu'effectivement, avant de faire le site web, il a fallu savoir un petit peu ce qu'on faisait comme arborescence, comment on sortait de l'information du site de l'April et comment on faisait un site dédié à la radio, enfin l'émission. Donc effectivement, maintenant, on est sur la phase de design, on va dire, sur laquelle je travaille en ce moment. Et après, il faudra trouver un très gentil contributeur pour monter le site.
Mais en tout cas, voilà, c'est aussi, alors ça se passe sur une autre liste de discussion pareil, qui est ouverte à toute personne qui le souhaite. Et donc toi, tu as fait une proposition d'abord d'arborescence, puis maintenant de plan de site. Il y a des échanges qui se font sur la liste. Il y a quelqu'un qui contribue aussi sur la mise en place, en tout cas sur les réflexions, vu que le site sera fait en SPIP. Et effectivement, à un moment, il y a une validation. Alors quand tu dis que j'ai validé, oui, je valide par rapport aux commentaires qui sont reçus, et parce que c'est aussi ma responsabilité. Alors j'espère que le site sera ouvert pour la reprise de la saison 4 de la radio, de l'émission Libre à vous, c'est-à-dire début septembre. Mais si ce n'est pas prêt, ça ne sera pas prêt. Mais en tout cas, voilà, il y aura un beau site. On nous demande sur le salon web de quelle couleur sera-t-il. Est-ce que tu peux au moins nous dire quelles sont les deux couleurs majoritaires ?
Alors, généralement, pour les sites April, on part sur une base qui est généralement bleue, historiquement, et orange. Donc là, je pense que j'ai plutôt envie de partir sur d'orange. Donc, a priori, on va quand même garder un peu de bleu, mais c'est plutôt la tendance. Et après, le design, la première version du design, c'est pour ce mois-ci. Donc après, ça prend en fonction du délai des retours. On aura, si ça doit sortir en septembre, on aura 2 mois pour développer.
D'accord, super. Alors je précise que pour les personnes qui ont déjà vu, on a aussi un t-shirt que tu as fait le design récemment, qui est aussi bleu et orange, et dont les premières, enfin c'est pas vraiment la première, on va pas revenir sur l'historique de ce t-shirt, mais peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une question easter eggs, type easter eggs, c'est-à-dire quel est le problème avec la première version, mais en tout cas voilà, on vient de passer commande de ce t-shirt qui devrait arriver d'ici quelques semaines et qui sera disponible lors des prochains événements à l'April, quand il sera possible à nouveau d'avoir des événements, et c'est assez bleu et assez orange. En tout cas, nous, on aime beaucoup au sein de l'équipe. Alors, je vois que le temps file vite. Je voulais que Laurent... alors, je ne sais pas si Laurent a envie de répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, mais tu me diras. Mais revenir un petit peu sur le Chapril, et notamment sur... Alors, je reviens pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, en préparant l'émission, alors, je recherche la question. Est-ce que je vais la retrouver ? Oui, je vais la retrouver. En préparant l'émission, on a reçu une question. La personne souhaitait savoir comment va l'engagement bénévole à l'April. Est-il stable, en augmentation ou en baisse ? Y a-t-il de plus en plus de dossiers traités ou pas ? Alors déjà, sur la partie dossier purement institutionnel, c'est la partie défense, on y répondra plus en détail le 30 juin, car Certes, il y a une très forte baisse de l'engagement bénévole sur cette partie-là, mais on en parlera notamment avec mon collègue Étienne Gonu, qui est chargé de mission sur ces dossiers-là. Par contre, sur le reste, en fait, il y a peut-être un vieillissement de certains bénévoles, on pourrait dire, y compris dans l'équipe salariée d'ailleurs. Mais il y a de nouveaux bénévoles. Alors, donc, par exemple, sur le groupe sensibilisation, il y a une forte activité, mais également sur le Chapril, parce qu'en fait, le Chapril a recruté récemment des nouveaux bénévoles. Donc, comment vous recrutez et quel est le profil des personnes qui viennent d'arriver sur le Chapril, Laurent?
Alors, les personnes qui viennent d'arriver sur le Chapril sont les derniers arrivés sont des développeurs qui développent pour l'essentiel du logiciel libre, du moins en logiciel libre, mais pas que. On peut pas toujours faire comme on a envie, hélas. Et qui ont une donc forte capacité technique et qui donc nous ont installé un dernier service, c'est le Kanban, qui fait partie de la méthode, qui est un support de la méthode agile.
Est-ce que je vais juste expliquer ce que c'est qu'un Kanban? Bon, c'est un sort de tableau où on répartit des tâches entre affaires, en attente, faites, etc.
Voilà. C'est un tableau, en fait, qui permet d'organiser un projet de manière, on va dire, sympathique et rapide. Initialement, c'était fait avec des post-it sur un tableau blanc. Et on met, par exemple, les tâches à faire et ou à réaliser sur une première colonne à faire avec la liste des tâches. Et puis, on la passe sur la colonne en cours avec le nom de la personne qui va le suivre, et ainsi de suite. Donc c'est très visuel, c'est très ludique, et ça va très vite. Et on a actuellement pré-essai au Chapril, en pré-ouverture, pardon, le service Kanban, qui a un support informatique qui simule tout ce qu'on faisait avec des post-it et des tableaux blancs, mais de manière beaucoup plus sympathique. On peut associer à chaque carte, à chaque post-it, des documents, des informations, des états, des couleurs, etc., etc.
D'accord. Je vois que tu me réponds sur le salon que tu peux répondre à la question que j'avais posée, donc savoir pourquoi tu contribues à l'April, qu'est-ce que ça t'apporte?
Voilà, le logiciel libre, j'utilisais beaucoup avant d'arriver à l'April. Et puis un jour, je me suis dit, j'en profite énormément, que ce soit personnellement ou professionnellement d'ailleurs, parce que du point de vue professionnel, ça a permis de réduire les coûts dans ma société de manière assez drastique. C'était l'argument massue, je veux dire. Pas forcément le meilleur, mais le plus efficace. Et à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour renvoyer l'ascenseur? Et je traînais dans un salon où je suis tombé sur le stand d'April. Et je veux dire que j'ai été convaincu là-bas de m'inscrire à l'April. Et de voir un petit peu de... Après, on m'a demandé un petit peu ce que je pouvais faire. Et dans le temps que j'avais, j'ai commencé par les traductions du groupe GNU, qui est un groupe qui traduit les documents de la Free Software Foundation, qui est anglaise, enfin américaine, en français, pour pouvoir les diffuser plus largement. Et j'ai commencé comme ça. Puis un jour, quelqu'un s'est avisé que j'étais programmeur administrateur système de métier, et j'ai été recruté pour le Chapril.
D'accord. Alors, on va bientôt arriver à la conclusion de cette première émission. Tu viens de parler de Trad GNU, donc traduction de la philosophie GNU. Je vais juste préciser qu'en fait, c'est un projet historique à l'April, car c'est le premier groupe de travail qu'on a ouvert en 1996, quand l'April a été créé. On s'est dit, tiens, on va mettre en ligne des textes expliquant la philosophie du logiciel libre. Et à l'époque, il y avait évidemment déjà le site de GNU.org qui existait. Et on s'est dit, le mieux, c'est carrément de traduire ce qu'ils ont mis en ce que les personnes ont mis en ligne, c'est souvent des textes de Richard Stallman. Donc c'est un projet qui existe depuis 1996 et qui continue donc à pouvoir maintenir et traduire de nouveaux textes, souvent de Richard Stallman, donc sur le site de GNU.org, donc, et également la newsletter, donc la lettre d'information de la FSF sur le site FSF.org. Donc FSF, c'est la Free Software Foundation, donc la fondation pour le logiciel libre. Alors je ne sais pas si quelqu'un, une personne a envie d'intervenir, une dernière intervention avant qu'on mette un terme à cette première émission. N'hésitez pas à me le dire sur le salon web, sinon on va en rester là pour cette première émission. Donc je vois que a priori personne ne veut intervenir. Bon, en tout cas, je vais faire les remerciements. Je vois que Isabella nous dit qu'on a oublié de dire que sur les stands, c'est aussi un moment idéal pour recruter et proposer d'adhérer à l'April et également de rejoindre des groupes de travail. Juste précision qu'on n'a peut-être pas effectivement dit, c'est que le modèle de financement de l'April, c'est exclusivement la cotisation des membres, mais on rentrera peut-être un peu plus dans ces détails le 30 juin, notamment avec Elsa Potier qui travaille à l'April justement dans la partie vie associative. Antoine nous dit comment adhérer. Vous allez sur april.org et vous pouvez nous rejoindre soit en adhérant, soit en faisant un don. J'en profite pour dire que l'Assemblée Générale de l'April aura lieu le 27 juin en visioconférence, donc à distance. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'April avant pour participer à cette assemblée générale. Quentin Gibault me précise que l'admin 6 April et le Chapril recrutent également. Bah, vous trouverez toutes les informations pour nous rejoindre, pour trouver une manière de contribuer sur donc april.org. Antoine me dit que la liste sensibilisation recrute, en fait tout l'April recrute. Quand j'entends recrute, c'est évidemment des bénévoles avant toute chose. Donc vous allez sur april.org, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Venez aux apéros, invitez-nous à des apéros en dehors de Paris. Sur Boulogne-sur-Mer, Françoise, nous viendrons dès qu'il sera possible, n'hésitez pas à nous inviter. On va dans un café, on discute un petit peu, on parle de l'April, etc. Alors je remercie donc Antoine Bardelli, Magali Garnero, Isabella Vanni, Laurent Poujoula, Quentin Gibault pour cette participation à cette première émission. Donc je précise que la deuxième aura lieu le 30 juin avec d'autres personnes qui sont actives au sein de l'April. Donc ce sera la deuxième partie de Au cœur de l'April. Et donc je vous remercie et on va faire une pause musicale. Nous allons écouter Friends par les Gueules Noires. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
L'avantage d'animer les émissions debout, c'est qu'on peut danser. Nous venons d'écouter Free Hands par les Gueules Noires, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer maintenant au sujet suivant. Nous allons donc poursuivre et finir avec la présentation du label Territoire Numérique Libre qui s'adresse à toutes les collectivités. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Béatrice Pradillon, chargée de communication à l'ADULAC, donc Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour l'administration et les collectivités territoriales. Le site de l'ADULAC, c'est adulac.org. Et le site des Territoires Numériques Libres, c'est territoire-numérique-libre.org. Béatrice, est-ce que tu es bien avec nous ?
Oui, je suis là, bonjour et merci pour l'invitation.
Eh bien, écoute, merci à toi Béatrice d'être avec nous. Donc déjà, première question toute simple, hein, qu'est-ce que le label Territoire Numérique Libre, à qui s'adresse-t-il, comment il fonctionne et quel est l'intérêt pour les collectivités de candidater et d'obtenir ce label ?
Le label donc, est un label qui a été créé en 2016, à l'initiative de la DULACT. Et le projet de ce label, c'est de valoriser au sein des collectivités territoriales toutes les initiatives et les politiques en faveur du libre. Parce qu'il se passe beaucoup de choses en fait dans les territoires, dans les collectivités, il y a beaucoup d'initiatives. Et même nous, la DULACT, qui travaillons depuis 18 ans avec les collectivités, nous ne savons pas tout ce qui se passe en fait dans ces collectivités. Et c'était vraiment une occasion à la fois de mettre en valeur ces initiatives d'une part et de permettre aux collectivités vraiment de faire un état des lieux, une évaluation de où j'en suis en fait au niveau de mes usages libres en fait. Donc on a créé un questionnaire qui aujourd'hui réparti en 5 grandes parties et qui touche un petit peu à tous les domaines, à la fois la stratégie, les logiciels libres, les systèmes libres, l'open data, la communication, la formation. Et ce formulaire en fait permet à la collectivité de faire un état des lieux complet de ses usages, de son fonctionnement, de ses projets sur les 5-10 dernières années. Et en fonction de ça, elle va obtenir en fait une note qui va aller de 1 à 5. Alors ce ne sont pas des étoiles, ce sont des copyleft. Voilà. Et depuis 2016, nous attribuons chaque année ce label. C'est un label minésimé qu'on peut renouveler chaque année. Alors je précise que le label va donc du niveau 1 au niveau 5, le niveau 1 étant donc un premier pas en fait dans le domaine du logiciel libre, et le niveau 5 étant le niveau vraiment d'excellence en la matière.
D'accord. Et combien il y a eu de lauréats depuis la première édition, approximativement hein ?
Alors, on a une cinquantaine de collectivités labellisées en France, vraiment de tout type, hein, parce que c'est des départements, des villes. On a une région aussi. On a eu aussi quelques établissements publics, un petit peu comme on a eu un SDIS la première année, un centre départemental d'incendie secours qui a candidaté. Mais on a principalement des villes, des départements, des communautés de communes, communautés d'agglos. Et on se rend compte en fait que d'année sur l'autre, les collectivités qui ont été labellisées aiment renouveler leur label en fait. Elles aiment voir un petit peu refaire un état des lieux. Et donc on a beaucoup de collectivités d'année sur l'autre qui reviennent vers nous.
Oui, parce qu'il faut précisément que le label, en fait, il est millésimé, donc chaque année il faut recandidater, et puis ça peut permettre à une collectivité d'augmenter de niveau, par exemple de passer de 3 au niveau 4, et donc de montrer une amélioration dans la prise en compte des libertés informatiques, que ce soit donc logiciel libre ou données publiques.
Tout à fait, c'est vraiment nous on encourage à le faire tous les ans ou voire tous les 2 ans pour les collectivités qui ont un petit peu moins de temps accordé parce que vraiment ça peut permettre de se fixer des objectifs, de décider que on se donne 2 ans pour atteindre par exemple le niveau 4 et ça peut être un marqueur en fait pour la collectivité de sa progression.
Tout à fait. Alors, ce label, on l'a dit, est organisé par la DULACT, donc c'est une initiative de la DULACT, mais est-ce qu'il est organisé en partenariat avec d'autres structures ? Et est-ce qu'il y a aussi le soutien de structures institutionnelles ?
Alors en fait, j'ai envie de parler, on parle nous en termes de comité d'orientation, c'est-à-dire que ce sont vraiment des structures qui sont déjà impliquées sur le sujet et qui nous aident en fait chaque année à la fois à promouvoir le label, mais aussi à repenser le questionnaire, le fonctionnement. Et donc au sein de ce comité, il y a l'AFUL, donc l'Association francophone des utilisateurs de logiciels libres, l'APRIL. Cette année, nous avons coopté un nouveau membre, c'est l'association Déclic, qui est une association en fait de structures mutualisantes dans le domaine du numérique. Il y a le cluster Naos, c'est l'ancien nom le nouveau nom pardon du pôle Akinetic, et la ville de Saint-Martin-d'Uriage, qui nous permet aussi d'avoir le point de vue des petites collectivités, du point de vue en fait des élus. Donc ce qui fait qu'au sein de ce comité d'orientation, on a à la fois des associations libristes, on a des associations de mutualisants, des entreprises du numérique libre et des élus aussi qui œuvrent chaque jour dans ce domaine-là. Donc ça permet d'avoir des points de vue très, très différents qui nous permettent de faire avancer aussi les choses chaque année.
Oui, c'est très bien. Et nous, au niveau de l'APRIL, on est évidemment ravis de participer à cette initiative. Et c'est important que tu précises que le label, ce n'est pas que pour les grandes collectivités. Hein. Toute collectivité, quelle que soit sa taille, peut obtenir un label même de niveau 4 en fonction de ce qu'elle fait. Parce qu'évidemment, la notation, on tient compte de la structure de la collectivité. Donc, Béatrice, c'est la 5e édition. Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Est-ce qu'il y a un bilan, des candidatures manquantes ?
Alors en fait cette année la principale nouveauté c'est donc on a associé l'association Déclic au comité, mais c'est vrai qu'au niveau du fonctionnement même on n'a pas fait de changement cette année, et même au niveau du formulaire on a rajouté la notion d'influence au niveau du territoire, c'est-à-dire que on essaye de mesurer, de dire est-ce que une collectivité peut avoir influencé d'autres collectivités du point de vue des logiciels libres. On a apporté cette petite notion en plus, mais dans l'ensemble, on a voulu garder un formulaire assez similaire à 2019, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une situation un petit peu exceptionnelle. On sait que les collectivités en ce moment, elles ont beaucoup de priorités qui ne sont pas forcément de candidater à un label. Donc on s'est dit aussi que cette année, en ayant un questionnaire qui est semblable à 2019, on va aussi encourager les collectivités déjà labellisées à renouveler leur label, parce que c'est vrai que ça demande quand même un petit temps d'investissement de remplir ce dossier. Donc on a voulu s'assurer que les collectivités n'aient pas de grosses nouveautés qui leur demandent un travail vraiment supplémentaire cette année.
D'accord, donc le formulaire de candidature est en ligne depuis le 10 juin, donc il faut le remplir. Ensuite, quelle est la date limite et est-ce qu'un jury va se réunir ? Est-ce qu'il va se réunir physiquement ? Et quand ?
Alors, les dates de candidature cette année, donc c'est du 10 juin au 15 octobre 2020 à minuit. Et en fait, on conseille aux candidats de fonctionner en deux étapes. On a d'abord une liste de questions à télécharger, imprimer, qui permet vraiment de faire le tour des services, d'aller voir les différents agents, les élus, et de pouvoir préparer le dossier. Et dans un second temps, de faire de remplir le questionnaire en ligne sur Framaform le 15 octobre. Il y a à peu près un petit peu plus de 100 questions, je crois, réparties en 5 parties. Donc, ce n'est pas non plus un temps incroyable de remplir ce questionnaire. Certaines collectivités le font en demi-journée sans problème. Et au niveau de la suite, on se laisse toujours 5-6 semaines à peu près de traitement des candidatures. Donc, ça veut dire qu'à peu près aux alentours de mi-novembre, fin novembre, on réunit le jury et ensuite on fait la remise des labels. Donc, cette année, on n'a pas encore de date déjà fixée, mais on sait que ce sera dans l'entour de fin novembre. On va certainement faire ça à peu près en même temps que le Salon des Maires et comme l'an dernier, on avait fait, en même temps que le Salon des Maires. Donc, je n'ai plus les dates exactes, mais c'est dans fin novembre.
Oui, ça va être fin novembre. D'accord, écoute, on encourage toutes les collectivités donc à candidater. Je rappelle le site web, territoire-numérique-libre.org, donc le label Territoire Numérique Libre. Nous étions donc avec Béatrice Pradillon, chargée de communication à la DULACT. Béatrice, je te remercie de ta participation, puis au plaisir de se voir peut-être pour la remise des prix au Salon des Maires, donc à la rentrée fin novembre.
Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas.
Écoute, à bientôt en tout cas. Donc, il nous reste, on approche de la fin de l'émission. Je vais regarder quelles annonces je peux faire. Alors, une annonce importante. On vous a dit tout à l'heure, la partie sur l'April, au cœur de l'April, que ce qu'on faisait, c'était majoritairement public. Eh bien, nous sommes en train de préparer le bilan de la saison 3 de Libre à vous et de préparer la saison 4. Donc, pour cela, il y a sur le bloc-notes qui est en référence, donc sur april.org et sur causecommune.fm, vous pouvez mettre déjà vos commentaires, signaler ce qui vous plaît dans l'émission, les sujets, les chroniques, les points de vigilance, d'amélioration, des suggestions pour la saison 4. Donc, ça, vous pouvez le faire quand vous voulez, parce qu'on a besoin de vos retours. Et nous organiser une réunion donc sur Mumble, donc sur l'outil d'audioconférence, ce vendredi 19 juin 2020 à 10h30 jusqu'à midi maximum. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le salon Mumble. Toutes les informations sont sur le site april.org. Et sinon, vous pouvez contribuer sur le bloc-notes ou nous envoyer un courriel. Vous trouverez les références sur le site april.org ou sur le site de Cause Commune, causecommune.fm. Et sinon, il y a aussi des reprises d'activités physiques. Donc par exemple, à Digne-les-Bains, il y a une cartopartie OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est un projet de cartographie qui a pour but de constituer une base de données géographique libre du monde. On en a parlé déjà dans l'émission à deux reprises. Donc, à Dijon, il y a une cartopartie. Mes pensées vont à Jean-Christophe Becquet, président de l'April, qui habite Dijon. Et à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, les ateliers reprennent. Donc, notamment, il y a un atelier Inkscape, qui est un logiciel libre de dessin vectoriel, qui reprend à partir du 30 juin 2020. Donc, toutes les informations sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Donc notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Noémie Berger, Magali Garnero, Laurent Poujoula, Antoine Bardelli, Quentin Gibault, Isabella Vanni, Béatrice Pradillon et également toutes les personnes qui étaient sur le salon web de la radio. Aux manettes de la régie aujourd'hui, William Agasvari. William anime les émissions Et pour cause et cyberculture sur la radio. Merci également à Sylvain Kutzmann, Antoine, bénévole à l'April, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio qui s'occupe de la post-production des podcasts. Un nouveau merci à Quentin Gibault, le même que tout à l'heure, qui s'occupe du découpe du podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur le site april.org et sur causecommune.fm une page avec toutes les références utiles. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 23 juin 2020 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le réemploi informatique et les libertés informatiques. Nous vous souhaitons de passer une agréable fin de journée. On se retrouve en direct mardi 23 juin 2020. Et d'ici là, portez-vous bien.